Philosophie du vivant, Père Philippe, 23 décembre 1982, Rimont.
Nous allons continuer cette philosophie du vivant en essayant maintenant de voir progressivement les différentes puissances de l'âme. N'est-ce pas ? Nous avions essayé de comprendre ce problème assez délicat et important entre les degrés de vie et la distinction des puissances de l'âme. J'espère que vous avez compris, parce que c'est une chose assez difficile et assez délicate. Les degrés de vie se prennent justement comme des degrés où la vie a plus ou moins d'autonomie, dans la mesure où elle se libère, si vous voulez, de tout ce que peut représenter la dépendance à l'égard du milieu. Comment elle est totalement dépendante du milieu, ou au contraire, comment elle est libérée de son milieu. Donc c'est les différents degrés de vie se prennent de ce point de vue-là. Tandis qu'au contraire, ce que nous allons voir maintenant, les diverses facultés de l'âme se prennent à partir des diverses opérations. Il y a diverses opérations que nous constatons, et chacune de ces opérations, dans la mesure où elle implique justement quelque chose de sui generis, quelque chose de particulier, dans cette même mesure, donc il y a des facultés distinctes les unes des autres. Vous voyez, c'est donc différent comme perspective, et je crois que c'est bien important de bien voir les deux perspectives. Ça se recoupe pas. Mais ça ne s'oppose pas. Je ne peux pas dire d'emblée, vous voyez, il y aura tant de facultés du côté des degrés du degré de vie biologique, tant du côté de la vie végétative, tant du degré de la vie intellectuelle. Non. Ce qui est sûr, c'est que la diversité est plus grande dans la mesure même où la quantité est plus présente. C'est le phénomène qu'on verra surtout avec le domaine de la vie intellectuelle. Alors je commence tout de suite par la vie végétative. De fait, Aristote commence par la vie végétative. Donc là, il y a un petit nota bene. Pourquoi commencer par la vie végétative et pourquoi pas commencer par le point de vue du cogito? Parce que si j'étais cartésien, je commencerais par le cogito. Or, de fait, Aristote commence par le point de vue de la vie végétative. Alors on pourrait dire, Descartes a rectifié Aristote, suivons Descartes. Quand il s'agit de la critique, on commence à la manière de Descartes. Quand il s'agit de la philosophie, on commence à la manière d'Aristote. Alors comprenons bien pourquoi, parce que ce n'est pas pour imiter Aristote, et ce n'est pas pour imiter Descartes, encore moins, n'est-ce pas ? Mais c'est pour essayer de comprendre que la critique se fait dans une attitude réflexive par rapport à la conscience. Or, seule la vie intellectuelle est immédiatement consciente. Et c'est pour ça que je commence la critique par le problème de la vie intellectuelle. Tandis qu'au contraire, la philosophie du vivant regarde les opérations vitales. Les opérations vitales, je ne dis pas les plus intelligibles pour moi, parce que ce n'est sûrement pas la vie végétative qui est la plus intelligible pour moi, du moins j'espère, parce que si c'était la vie végétative qui était la plus intelligible pour vous, pour l'un de vous, je dirais pauvre vie intellectuelle. Si vous pensiez comme vous mangiez, je ne sais pas ce que serait votre pensée, n'est-ce pas ? Mais c'est de fait la vie intellectuelle qui est la plus consciente. Mais je commence par la vie végétative. Pourquoi ? Parce que la vie végétative a justement quelque chose d'objectif qui est unique. La vie sensible, nous verrons, est très complexe, très difficile. C'est peut-être ce qui est le plus difficile. Et pourtant, après la vie végétale, nous verrons la vie sensible. Ça reste encore pour nous ce qui est le donné le plus immédiatement analysable, en quelque sorte. Vous voyez, alors nous sommes là en présence, hein. Ce serait la question de méthode, parce que c'est toujours intéressant de voir l'ordre qu'on prend. On doit être attentif à ça, le propre du sage c'est d'ordonner. Donc si le propre du sage c'est d'ordonner, on doit être conscient de l'ordre qu'on prend. Or, de fait, en méthode philosophie du vivant, il y a toujours les deux aspects. Il y a l'aspect réflexion que nous avons sur nos activités, lucidité que nous avons sur nos activités, et objectivité. Aristote met la philosophie du vivant dans la philosophie de la nature. Alors je comprends, on voit que la philosophie de la nature, c'est la vie végétative qui est plus proche. Et c'est vrai, c'est du côté de la vie végétative que j'ai les données les plus immédiates. C'est plus facile de comprendre ce que c'est que le pain que de comprendre ce que c'est qu'un objet. Parce que le pain, je le mange. On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour savoir ce que c'est que le pain. Et quand on vous sert à table, hein, vous ne réfléchissez pas pendant 3 minutes, pour dire, sauf si vous prenez votre pendule pour savoir si c'est bon ou mauvais, n'est-ce pas? Mais en dehors de là, ça se fait immédiatement, n'est-ce pas? Vous ne réfléchissez pas sur ce que représente l'aliment. Vous faites confiance à la cuisinière, ou aux cuisinières et aux cuisiniers. Vous faites confiance qui pourrait vous empoisonner tous les jours, n'est-ce pas? Et vous feriez ça avec une spontanéité, sans tenir compte de ça. Et c'est vrai, la confiance extraordinaire qu'on fait. Parce qu'on pourrait nous empoisonner tous les matins. C'est une confiance extraordinaire. On fait beaucoup moins de confiance à celui qui nous donne un ordre en disant tu feras ceci. C'est beaucoup plus grave pour dans l'aliment, il peut nous empoisonner. Et vous faites confiance. C'est extraordinaire ça. La vie végétative, c'est une chose très extraordinaire. Comme on fait confiance à l'aliment qu'on prend. Vous faites beaucoup moins confiance à l'objet que vous connaissez. Vous réfléchissez beaucoup plus. Vous voyez, il y a cet aspect-là que je crois qui fait que la philosophie de la nature, la philosophie du vivant, est proche de la philosophie de la nature. Et parce qu'elle est proche de la philosophie de la nature, il y a ce contact immédiat que je n'hésite pas à regarder comme la chose première. Qu'est-ce qui est le plus connaissable pour nous? Aristote le dit dans la vie du physique, et c'est vrai, ce qui est le plus connaissable pour nous, c'est ce qui est mu. C'est le plus connaissable pour nous, c'est ce qui est mu. C'est pas l'être. L'être n'est pas du tout ce qui est le plus connaissable. Et le vivant n'est pas le plus connaissable pour nous. C'est le plus complexe. Ce qui est mu. Or, la vie végétative est la plus proche de ce qui est mu. C'est pour ça que je commence par le point de vue de ce qui est mu. En sachant très bien que la méthode de la philosophie du vivant n'est pas uniquement une méthode de philosophie spéculative comme la philosophie de la nature, elle implique une lucidité, pas une réflexion critique. Alors c'est là où il faudrait bien saisir, hein, la différence entre une méthode critique qui prend comme objet ce qui est déjà connu. En philosophie du vivant, je ne prends pas comme objet ce qui est déjà connu. Je prends comme objet l'opération vitale. L'opération vitale, elle m'est donnée à des degrés différents, ce que nous venons de voir. Le degré de la vie végétative, bon. C'est le degré le plus immédiat pour moi parce que c'est celui qui est le plus proche de ce qui est mu. C'est le plus proche du monde physique. Vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant maintenant. Ça montre que le monde physique reste toujours pour moi ce qui est premièrement connu. C'est pas étonnant qu'il y ait une tendance de réduction de la vie au monde physique. Vous voyez ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est très curieux, il faut essayer de comprendre ça, pourquoi. C'est parce qu'au fond, le monde physique, pour moi, est premièrement connu. Il est plus connu que le monde de la vie. Le monde de la vie est plus complexe, est beaucoup plus complexe. Et donc, il est plus éloigné de ma connaissance. Deuxièmement, la méthode réflexive, elle est pas dans critique, c'est pour ça que je commence par le point de vue de conscience. Tandis que lorsqu'il s'agit de la philosophie du vivant, c'est pas la méthode réflexive, c'est la lucidité que je dois avoir vis-à-vis de mes opérations vitales. Je dois être lucide vis-à-vis de mes opérations vitales. Et je dois avoir une lucidité parfaite. Or, il est bien évident que lorsqu'il s'agit de la nutrition, que nous allons voir tout de suite, lorsqu'il s'agit de la nutrition, nous n'avons pas beaucoup de lucidité. Vous avez très peu de lucidité. Vous arrivez au bout d'un certain temps à savoir que tel aliment vous rend mal à l'estomac, et donc vous êtes un petit peu lucide là-dessus, et vous prenez le temps vite pour être plus sûr que c'est ça qui vous donne une objectivité plus grande, n'est-ce pas ? Vous ne pas vous laisser à votre subjectivité. Non, j'aime pas cette soupe. Le pourvu me dira que, objectivement, je n'aime pas cette soupe. N'est-ce pas ? Alors, vous ne pas laisser la subjectivité l'emporter, et mon vous dire, non, ça ne te goûte pas. Mais non, le pendule dit. C'est extraordinaire, ça. Alors, ça montre bien l'objectivité, le souci d'objectivité que nous avons dans le point de vue de la vie végétative. La vie végétative est plus propre et plus proche de la philosophie de la nature, ce me verrait de la vie végétative, comme nous allons le voir, parce que c'est ça qui est intéressant à voir, le « c'est me verrait », que ça se veut, est très faible dans la vie végétative. Et cependant, c'est le vivant, hein. C'est le vivant qui mange. Et seul le vivant mange. Et seul il est capable de manger. Et c'est même le premier signe, justement, qu'il est capable de s'assimiler le milieu dans lequel il est, et de faire que ce milieu qui, au point de départ, est étranger, devient lui. L'égocentrisme du vivant. Il ramène tout à lui. Mais il ramène tout à lui dans un mouvement extraordinaire. Le monde physique qui est extérieur va devenir progressivement, grâce à l'assimilation, va être le vivant qui progressivement assimile ce monde physique. Ce monde physique plus ou moins physique, c'est parce que c'est un monde physique peut-être en étant une œuvre d'art. Quand il s'agit du pain, c'est une œuvre d'art. Hein. C'est pas uniquement un monde physique, c'est une œuvre d'art. Il peut y avoir du pain qui est plus ou moins bien fait, et ainsi de suite. Et on sait que c'est une œuvre d'art. C'est vrai, dès qu'il y a une cuisson, il y a une œuvre d'art. À la différence de l'herbe que vous prenez, n'est-ce pas ? L'herbe que vous prenez n'est pas une œuvre d'art. La sauce, oui, n'est pas l'herbe. L'herbe, c'est du physique. N'est-ce pas ? Et l'œuvre d'art, c'est que vous prenez donc c'est du physique un peu manœuvré. Un peu manœuvré par le monde physique, un peu transformé. Et c'est là où vous avez l'aliment. L'aliment, c'est beaucoup de deux. Mais c'est quand même lié au monde physique. Hein. C'est très lié au monde physique. Alors, objectivement, je comprends très bien comment je commence par la vie végétative. À cause de ça, c'est le plus proche du monde physique. Et que le monde physique est pour moi le plus connaissant. Deuxièmement, parce que la philosophie du vivant n'implique pas une méthode réflexive, une méthode de conscience à partir de ce qui est connu, mais avec tout simplement une lucidité, j'ai la lucidité de manger. Je sais que je mange, que je ne choisis tel aliment. Et si on m'a servi, j'ai accepté d'être servi. Donc j'ai choisi, j'ai quand même choisi l'aliment. Il y a donc une certaine lucidité qui fait que la vie végétative n'est pas totalement obscure. Il faudra préciser où se trouve la lucidité. Alors, nous allons donc commencer par la vie végétative, puis nous verrons la vie sensible, puis la vie intellectuelle. Vous voyez, donc nous prenons un ordre inverse de celui des cartes, et nous reprenons l'ordre. Et je crois vraiment qu'on doit prendre l'ordre que nous donne Aristote. Encore une fois, non pas parce que c'est Aristote, mais parce que c'est l'ordre de qui est le plus objectif. Au plan philosophique. C'est la vie végétative qui s'impose à moi de la manière la plus objective qui soit. Ça, c'est sûr. C'est la vie végétative qui s'impose à moi. C'est le premier analogue de toute l'objectivité, c'est l'aliment. C'est l'aliment qui donne l'objectivité la plus grande. Alors, si c'est l'aliment qui donne l'objectivité la plus grande, je dois commencer par là. Alors, je vais regarder donc quelles sont les opérations caractéristiques de la vie végétative. Et à partir de ces opérations caractéristiques, je je vais poser les dunamères, les puissances différentes vis-à-vis de ces diverses opérations. Alors vous comprenez qu'ici, c'est ici où l'aspect de la biologie et des études biologiques peuvent jouer un rôle très important. Parce que, de fait, c'est la vie la plus engagée dans le corps, hein, la vie végétative. Notre vie biologique, c'est notre vie végétative. Donc c'est la vie la plus engagée dans le corps. C'est donc le point de vue du corps et des organes physiques, biologiques, qui vont jouer le rôle le plus important. Or, la science moderne étudie justement la cause matérielle, avec ses dispositions, donc étudie le corps. Alors, c'est là où une complémentarité, ce serait très intéressant de regarder cette complémentarité. Si on avait le temps, on la ferait. Mais on demanderait à un biologiste de nous dire ce qu'il peut dire par rapport à la nutrition. Alors, il partirait dans tous les détails extraordinaires de ce que représente la nutrition, vu du côté biologique. Mais il tournerait autour. Il ne nous dirait jamais ce que c'est que la nutrition. Il nous montrerait le conditionnement de la nutrition. Le conditionnement de la nutrition, il resterait toujours autour de ce conditionnement de la nutrition. Il n'irait jamais dire qu'est-ce que c'est que la nutrition. Seul le philosophe se pose la question. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est ça, c'est très important. Je crois que là, quand il s'agit de la vie biologique, il faut bien voir la part de la biologie qui nous apporte une connaissance des organes, une connaissance des dispositions matérielles nécessaires à la biologie, qui nous donne une connaissance de toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour la digestion, n'est-ce pas, pour la respiration, toutes les difficultés qui peuvent exister dans ce domaine-là, et comment dans ce domaine-là, c'est vrai, la vie de l'intelligence ne favorise pas du tout la vie végétative. Vous comprenez que la cohabitation est une chose terrible. Pour la vie végétative, cohabiter avec un intellectuel, c'est pas à faire. Pour la vie végétative, cohabiter avec uniquement les passions, ça vaut mieux. Comme pour l'animal. Normalement, la vie végétative se porte mieux chez l'animal que chez l'homme. Je dis normalement. Et d'autre part, il y a cette chose très étonnante, que chez l'homme, la vie biologique va pouvoir s'adapter plus facilement. Et il y a une adaptation beaucoup plus grande. Et donc, d'une certaine manière, grâce à l'intelligence, la vie végétative va prendre une certaine modification. Il faudra se demander quelles sont les modifications possibles au point de vue de la vie, de la philosophie du vivant. Je ne le pose pas maintenant, hein. Mais c'est une fois qu'on aura fait la philosophie du vivant, on reviendra sur ce que nous avons fait. Autrement dit, on fait un aller et un retour, n'est-ce pas ? On est bien, on fait un aller la vie végétative, la vie sensible, la vie animale et la vie spirituelle. Et puis une fois qu'on a la vie spirituelle, on revient sur la vie animale et on revient sur la vie végétative pour voir dans quelle mesure la vie végétative peut être modifiée par la vie de l'esprit. C'est très intéressant au point de vue artistique, ça. Non, au point de vue médical. Dans quelle mesure peut-il y avoir transformation ? Dans quelle mesure, jusqu'où pouvons-nous, si vous voulez, être stylisés ? Jusqu'où pouvons-nous n'avoir qu'un seul repas par jour? Jusqu'où pouvons-nous diminuer notre sommeil? Jusqu'où pouvons-nous arriver la cèse, au fond? La cèse, la domination de l'esprit sur la vie végétative. C'est un très gros problème, c'est un problème constant. C'est le problème de savoir comment se nourrir. Comment se nourrir de manière équilibrée. Quelle est la part de gymnastique nécessaire à une vie végétative qui est dans un certain cadre particulier, jusqu'où le cadre peut-il être rigide? Et jusqu'où peut-on aller dans la rigidité de ce cadre, où au contraire on risque de tout casser? Là, ça, c'est la connaissance de la vie végétative. Vous voyez, au fond, le médecin ira par mode d'expérience, le philosophe, lui, va essayer de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la vie végétative? Alors, ceci, c'est pour vous montrer la question propre et le point de vue de la biologie parallèlement. Première opération, la respiration. La respiration est quand même l'opération première de la vie végétative. première génétiquement et dernière génétiquement. C'est évident, c'est quand quelqu'un ne respire plus que vous avez décidé de dire qu'il était mort. Et vous savez qu'aujourd'hui, on distingue la mort apparente de la mort réelle. Et la mort apparente, c'est justement quelqu'un qui ne respire plus. Vous mettez la glace dessus, il ne respire plus. C'est vieux, hein, comme erreur, de mettre la glace devant pour savoir si on respire encore. Vous voyez, c'est un petit instrument, simplement, voir si vous respirez encore. Et c'est le signe. Vous ne respirez plus ? Fini. Et c'est vrai que si on ne respire plus pendant trop longtemps, respiration artificielle à ce moment-là, respiration artificielle, il faudra essayer de se remettre à respirer. Donc, le premier moment de l'autonomie vitale, c'est la respiration. C'est quand l'enfant commence immédiatement à la naissance de respirer. Tandis que quand il était enceint de sa mère, il ne respire pas lui-même. Donc il n'a pas d'autonomie absolue au point de vue vital. C'est très intéressant. Il peut avoir un être distinct de sa mère et ne pas avoir d'autonomie vitale. Ça aussi c'est intéressant parce que c'est important de comprendre cela. La différence entre l'être, qui est distinct, tout de suite, dès le premier moment de la conception, il y a une distinction au point de vue de son être par rapport à sa mère, il est autre, tandis qu'il n'a pas, il n'est pas autre dans sa vie. Il est le prolongement de la vie de sa mère, il est le prolongement de la vie de ses parents, il prolonge, il n'a pas d'autonomie vitale. L'autonomie vitale, c'est à la naissance. Et l'autonomie vitale, c'est au point de vue de la respiration. Ça, c'est, je crois, très important de comprendre ça. Aristote n'en parle pas. Pour vous montrer que et je crois qu'on doit en parler aujourd'hui. On doit en parler. Il y a tout le point de vue de l'Inde aussi qui nous montre cela. Qui nous montre combien la respiration est une chose capitale pour l'équilibre. Apprendre à respirer. Hein. Et je dis à certains, ce qu'on avait dit quand j'avais été permettre de chez les Dominicains. C'est pas drôle, j'étais tout jeune, hein. Et j'avais des étudiants plus âgés que moi. C'est jamais drôle pour un permis d'avoir des étudiants plus âgés que vous, parce qu'ils vous toisent, hein, en disant, pas grande expérience. Alors j'allais toujours avoir des filles, à ce moment-là, un médecin, j'avais compris qu'il fallait avoir un médecin, mais un vieux médecin de maison, vous savez, ça, c'est très important de famille, c'est là. Et alors ce bon médecin, qui était le père du reste d'un des étudiants, m'avait dit, écoutez, quand ils sont fatigués, ça vient. Dites-leur de respirer. Ils ouvrent leurs fenêtres et ils se mettent à respirer. Mais qu'ils respirent à fond. Je vous affirme qu'il y aura beaucoup de choses qui s'équilibreront à partir de là, s'ils se mettent à respirer. Parce que quand on respire moins, on est plus vite angoissé. On a moins d'autonomie. On a moins d'autonomie. On est l'autonomie première, génétiquement, la respiration. Et c'est très vrai, ça va très loin, ça. Ça va très loin, c'est vraiment là où on comprend par rapport au milieu ambiant, la respiration est une chose capitale. Apprendre à respirer pleinement, c'est le signe premier de l'autonomie du vivant. Et cette autonomie du vivant, c'est se servir du milieu ambiant, l'oxygène, dont on se sert, et qui nous aide à vivre. Hein. C'est pas suffisant de respirer, c'est pas suffisant. Mais c'est nécessaire. Condition sine qua non de nécessité pour l'autonomie. Alors ce serait intéressant, vous voyez là, ce serait très intéressant d'étudier ça au point de vue philosophique. Ne pas tout voir avec vous, hein, puis ce serait intéressant de voir comment la respiration est le premier moment de l'autonomie du vivant. Comme autonomie vitale, vous voyez. Pas dans son être, hein, la distinction entre l'être et la vie. Donc l'autonomie vitale, la respiration. Et ça restera toujours. De sorte que certains troubles psychiques peuvent très bien provenir de ça. Qu'on manque de respiration. Parce qu'alors il y a immédiatement des angoisses qui viennent. On a l'impression, on a peur d'être complètement, vous savez, d'être pris complètement. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans un souterrain. Ils ne peuvent pas entrer dedans, ils ont peur immédiatement d'être saisis pour pouvoir respirer. Alors c'est gênant. Ils ne peuvent pas descendre très souterrain. Tandis que l'autonomie permet. Donc la respiration, le milieu vital, on est dépend du milieu, l'oxygène qui fait qu'on. Alors,
qui permet une assimilation. La respiration implique une assimilation. Secondement, le point de vue de la nutrition. La respiration est une nutrition. Mais la différence ici, je précise l'aliment. L'aliment, celui qui est le plus important, l'aliment. Alors, vous avez là le fait de se nourrir. On ne dira pas que la respiration, c'est se nourrir. Vous voyez, il y a autre chose. Mais des deux côtés, c'est une assimilation. Donc, au point de vue, si vous voulez, au point de vue de la vie, tous les deux, c'est une assimilation. On assimile l'aliment comme on assimile l'air qu'on respire. Mais il y a deux assimilations différentes. C'est pour ça que d'une certaine manière, on peut les distinguer. Et en même temps, on doit montrer que tous les deux ont quelque chose de semblable parce que c'est ce qui est extérieur qui devient progressivement le vivant et permet au vivant d'avoir son autonomie vitale et de pouvoir survivre. Tout de suite, c'est la survie. Hein. C'est que l'enfant a besoin de se nourrir pour survivre. Et c'est très net, c'est quand il n'a pas l'aliment qui lui est adapté, il se met à crier, l'enfant. Quand on est plus grand, on ne crie pas, mais on fait des choses à la mort. On est de mauvaise humeur, vous voyez, c'est une manière de... Parce qu'on a mal mangé, on est de mauvaise humeur. On n'a pas mangé à sa faim, on est de mauvaise humeur. On a quelque chose qui ne va pas. C'est tout simplement. Tandis qu'au contraire, après un bon repas, normalement, il y a une euphorie biologique qui aide l'euphorie psychologique. Et c'est là où joue la 16. Hein. La 16 jouera à ce point de vue-là. Et c'est pour ça que quand il y a trop d'assaise de ce point de vue-là, le corps crie. Il y a une manière pour le corps de crier. Et qui fait à ce moment-là, c'est l'âme qu'on a battue. On était très vertueux, on n'a pas crié. Mais il arrive un moment où ça craque. La vertu ne tient pas son point de vue biologique. C'est extraordinaire. Il faut vraiment avoir une très très grande force pour arriver à dominer complètement le point de vue biologique. Et ça met du temps. Il faut une très grande force spirituelle. Alors on peut arriver à faire que... Alors évidemment, ce n'est pas le but, hein. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne. La sève n'est pas le but de la vie chrétienne. Mais ça peut être le but de certaines mystiques, hein, où on a le point de vue de la domination complète du corps. Et la domination du corps se fait par la respiration et par la nutrition. Ça, c'est sûr. C'est le premier point de vue. C'est le point de vue premier et fondamental. C'est par le point de vue de la nutrition et par le point de vue de la respiration qu'on arrive à dominer progressivement son corps. Et alors, on peut arriver à cette domination ascétique du corps jusqu'à un certain point. Il y a des phénomènes qui vont très loin dans ce domaine-là. On peut arriver très, très bien à se nourrir de très, très peu de choses et quelquefois même uniquement de la respiration. C'est le cas de... Alors là, évidemment, nous disons qu'il y a un miracle. Et ceux qui regardent de l'extérieur ne disent pas nécessairement qu'il y a un miracle. Le cas de Marthe Robin, qui ne se nourrissait que uniquement de la respiration. Mais elle avait un besoin impératif de la respiration. Un besoin plus grand que nous. Parce que c'était plus fort, il fallait que la tête soit tout le temps ouverte. Pour que la respiration soit tout le temps renouvelée. Parce qu'il y avait une espèce de vulnérabilité beaucoup plus grande du côté de la respiration, parce que tout reposait sur la respiration. Et qu'il n'y avait plus aucune nutrition d'ordre alimentaire. Alors il n'y avait plus que la respiration. C'est très curieux, c'est intéressant du reste ça, parce que ça montre bien ce que c'est que le corps, et un corps vivant, et comment l'âme, d'une certaine manière, peut se spiritualiser, d'autant plus que le corps est maté, dépassé. Alors, est-ce qu'on peut le faire uniquement par l'ascèse, ou y a-t-il intervention philosophique d'autre chose, que je ne prise pas au point de vue philosophique, Intervention d'autre chose, un autre élément, ça c'est la question intéressante justement des rapports entre l'intelligence et le corps. Nous y reviendrons. Parce que c'est important ça, au point de vue philosophique. Et c'est important de ne pas conclure trop vite à une intervention nécessairement miraculeuse. Parce qu'il peut y avoir une domination du corps par le point de vue de l'esprit. Qui ne sont pas nécessairement. Et on sent très bien, du reste, ça, suffisamment. Je ne vous demande pas de faire l'expérience, hein, mais on sent très bien. Je me souviens bien, quand j'étais jeune religieux, j'ai très bien senti le moment où on pouvait très bien orienter toute son assaise vis-à-vis de son corps. Et alors, à ce moment-là, on n'est plus dans l'attitude contemplative. Oui. Parce que c'est l'âme spirituelle qui s'oriente vers le corps et qui sculpte le corps par sa domination. Et on arrive très bien à le dominer. Mais alors à ce moment-là, on n'est plus dans l'attitude contemplative. Oui. Parce que c'est l'âme spirituelle qui s'oriente vers le corps et qui sculpte le corps par sa domination. Et on arrive très bien à le dominer à un certain point. Mais on sent très bien qu'à ce moment-là, si on fait ça, on tombe dans une certaine esthétisme. Vous voyez, c'est esthétisme dans le sens de la domination et dans le sens de l'ascétisme. L'ascétisme est un esthétisme. Pas pour garder la forme, mais pour autre chose, pour dominer le corps, pour arriver à faire que le corps s'amenuise. Ça me nuise de plus en plus pour laisser une liberté à l'esprit. L'attitude mystique, c'est justement de faire l'inverse. C'est qu'il y a une certaine domination du corps relative et qui respecte la nature sans la forcer pour laisser au cœur une liberté plus grande. Mais c'est la différence, je crois, entre l'Inde et le point de vue chrétien. Je me souviens, ça, je me souviendrai toute ma vie, c'était au début que j'étais au Solchoir, donc j'étais tout jeune prêtre, et j'étais le seul prêtre au Solchoir à ce moment-là, parce que le prieur était absent. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vient de Paris et qui veut voir un moine. Très bien, j'y vais. Je me trouve, je lui demande ce qu'il fait dans la ville. Il dit, je suis agent de la paix. Ça veut dire flic, hein. Je suis agent de la paix, je dis, alors, très bien. Je suis végétarien, j'ai un très grand amour de la mystique. J'ai lu tout Saint-Jean, j'ai lu beaucoup de choses de l'Inde. Puis au bout d'un certain temps, il me dit, « Ah, j'aimerais que vous précisiez la différence entre la mystique chrétienne, pour un flic, c'est pas mal, hein, comme conversation du dimanche. J'aimerais savoir la distinction que vous mettez entre le point de vue de l'ascèse de l'Inde et du côté mystique chrétien. » Alors il m'a dit de lui-même, c'est de lui-même qui me dit ça, est-ce que ce n'est pas cette distinction-là, parce que je le laissais parler, est-ce que ce n'est pas cela, que pour l'Inde, l'ascèse est voulue pour elle-même, tandis que dans la vie chrétienne, l'ascèse est toujours relative à la contemplation. Et on est parti là-dessus. Oui, c'est une belle discussion, du reste. Gardien de la paix. Alors après, évidemment, j'ai été chez lui parce que c'était merveilleux. Alors il avait son fils qui s'appelait Jean. Il me dit, j'aime beaucoup Jean parce que c'est le grand mystique, Jean. Et alors j'ai appelé mon fils Jean. Quand il est né, je lui ai crié dans l'oreille, Jean, pour qu'il reçoive tout point de vue mystique. C'était merveilleux, c'était extraordinaire. Il était complètement en dehors de l'Église. Je l'ai essayé de le remettre dedans, lui faisant comprendre. Mais il était en dehors et il avait compris. Il vivait à côté d'une paroisse à Paris, dans un endroit où il m'a dit, voulez-vous aller voir ces curés? Je crois qu'il n'aurait rien compris si leur avait dit la différence entre la l'ascèse de l'Inde et la l'ascèse chrétienne. Il m'aurait regardé d'un drôle d'œil. Je me suis dit, il faut à tout prix trouver des moines pour leur poser cette colle. Et moi, m'orienter, parce que je veux je veux connaître la mystique profonde, c'est ça qui m'intéresse. Et alors, bon, Ça, c'est pour la question de la respiration et nutrition. C'est très intéressant, c'est la base. C'est la base. Alors, il y a un ordre naturel, qu'on doit respecter. Cet ordre naturel qu'on doit respecter. Alors, la nutrition de l'aliment, alors vous comprenez que des deux côtés, c'est ça qui est très curieux, des deux côtés, l'aliment, c'est ce qui est capable d'être assimilé. L'air, c'est ce qui est capable d'être assimilé. Tout n'est pas assimilable. Et donc, il y a un procédé de discrétion, de discernement naturel entre ce qui est assimilable et ce qui n'est pas assimilable. Vous trouvez ça tout de suite au niveau au niveau de l'assimilation. C'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que vous allez voir toutes les analogies qu'on va voir après. Et toutes les analogies qu'on va voir après sont très intéressantes de voir ça. C'est que de fait, dès qu'il y a assimilation par rapport à l'aliment, et je prends exprès le premier analogue qui est assimilé, l'aliment, il y aura nécessairement ce qui est assimilé, ce qui est assimilé dans la réalité dont je me nourris. L'aliment, c'est ce qui est assimilable dans la réalité qui est nourrie. C'est ça l'objet. Et puis ce qui est rejeté, le vivant rejette pour pouvoir vivre, pour pouvoir assimiler. Dans cette assimilation vitale, il rejette ce qui n'est pas assimilable, ce qui pour lui serait un empoisonnement, ce qui l'empêcherait de vivre. Cette chose est très extraordinaire, ça. C'est une chose admirable. Et ça se fait instinctivement. C'est la nature qui fait ça. Je ne peux pas. Je peux moi-même aider en voyant que des aliments qui soient plus assimilables les uns que les autres, parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas du tout. Mais la nature fait ce discernement. La nature fait ce discernement par rapport à ce que représente l'aliment, ce qui est capable d'être assimilé. Donc, de devenir le vivant, c'est le vivant qui assimile et qui fait ce discernement, cette discrétion. Premier jugement de discernement. C'est au niveau du vivant, c'est pas un jugement, mais c'est au fond naturel de faire le discernement entre ce qui est assimilable et ce qui doit être rejeté. Pour que le vivant puisse vivre. Qu'est-ce qu'il y a ensuite alors? Je n'entre pas dans la question, on va regarder l'assimilation après. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'assimilation? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Troisièmement, la croissance. Il y a la croissance. Le vivant qui se nourrit bien, sans faire de crise de croissance, se nourrit bien, il grandit jusqu'à certaines dimensions. La croissance n'a pas d'autre objet que la nutrition. C'est ça qui est très curieux. Et c'est pourtant pas uniquement la nutrition, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est la grosse question. Comment se fait-il, n'est-ce pas ? Je mange, l'enfant mange, le jeune homme, le jeune, qui demande de croître, tant vous devez grandir encore, hein, n'a pas atteint le plafond, et pas le tour de... Alors, tant qu'on mange pour vivre et croître, il arrive un moment où la croissance n'existe plus, on est sur le haut plateau, hein, ça reste, il n'y a plus de croissance. Il y a plutôt une décroissance, hein, quand les cheveux commencent à dégringoler, n'est-ce pas ? Quatrièmement, la décroissance. Il y a croissance et décroissance. Et tous les deux s'enracinent dans la nutrition et la respiration. Ça, c'est important, parce que c'est quelque chose de secondaire. Mais c'est quand même en vue de la perfection. Le vivant demande d'être parfait dans son développement. Il demande d'atteindre un certain acmé, une certaine perfection, un certain sommet, pour qu'il soit parfaitement vivant. Et quand il est arrivé, pas nécessairement à son croissance, mais il y a aussi, cinquième opération, le point de vue de la procréation. Je parle de l'homme en premier lieu. La procréation. La procréation, c'est le vivant de vie végétative qui devient capable d'être source d'un autre vivant. Et ceci, dans toute la vie végétative, on le trouve avec des procédés très différents. Aristote s'intéresse énormément à la différence de procédés de procréation. Parce qu'il dit que c'est ce qui caractérise le plus le vivant. C'est intéressant, au point de vue de la vie végétative. Hein. Il dit que c'est ce qui caractérise le plus le vivant, c'est le point de vue de la procréation. Il y a des remarques qu'on va essayer de comprendre ensemble, parce que ça, c'est intéressant à bien saisir philosophiquement. C'est 5 opérations. Je crois qu'il y en a 5. S'il y en a d'autres, on pourra les voir. Alors, il y a des crises, hein, il y a la maladie, c'est évident, mais ça, c'est pas positif. Ce qui est positif, c'est intéressant de voir ce que ça représente exactement comme diverses facultés. Voyez, je fais d'abord une description des diverses opérations caractéristiques de la vie végétative. Ces diverses opérations caractéristiques de la vie végétative. Je vois qu'en effet, il y a ces diverses opérations. Alors, maintenant, essayons de comprendre, une fois qu'on a cela, on va essayer de les analyser philosophiquement. L'analyse philosophique se fait toujours par le point de vue des causes. Comprendre ce que représente philosophiquement au point de vue de la vie, puisque c'est le premier moment de la vie. Je ne saisis la vie que par ses opérations vitales. Je ne peux pas les saisir autrement, la vie. C'est par son opération vitale que je saisis le vivant. Alors, je vais essayer de saisir chacune de ces opérations en analysant ces opérations. La respiration est donc une assimilation. Quand je dis assimilation, je veux dire que ce qui premièrement était extérieur devient immanent. C'est ça le propre de l'assimilation. Une assimilation organique, c'est-à-dire une assimilation qui se fait selon un certain plan. L'assimilation, à partir du vivant qui implique un corps organique, l'assimilation se fait pour le vivant, et pour le vivant qui implique justement ce point de vue organique. Vous voyez ? Alors il y aurait toute la phase avant, que je ne regarde pas maintenant, sur laquelle je reviendrai après. Vous voyez, la phase de la formation de l'embryon. Celle-là, je ne peux pas la dire tout de suite, parce que je ne la constate pas actuellement. Nous faisons de la philosophie de ce que nous vivons maintenant. Mais nous devrons regarder dans une autre partie de la philosophie, je vous dis ça tout de suite pour que vous compreniez, que je n'abandonne pas cette première phase, qui est très importante au point de vue biologique, si vous voulez, et d'une certaine manière au point de vue biologique, elle est première, tandis que je ne la prends pas première au point de vue philosophique. C'est la formation première du corps. Et alors, oh, vraiment, j'ai un vivant qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vit par la médiation d'un autre. Et donc, ce n'est pas sa vie. Et puisque ce n'est pas sa vie, ce n'est pas ça que je dois regarder en premier, au point de vue philosophique. Je le regarde au contraire en dernier lieu. Comment, de fait, il y a une vie embryonnaire, qui est tout à fait autre que la vie où il y a l'autonomie. Tandis que là, il y a l'autonomie du vivant. Le vivant a son autonomie. Dans la vie embryonnaire, il n'a pas son autonomie, et donc il faut que toute la complexité de son corps se forme progressivement. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est la manière dont ce corps se forme progressivement. Ici, il est formé. Et je peux dire que cette assimilation vitale, cette assimilation biologique, implique immédiatement une assimilation qui est lié à la complexité du corps. C'est pour le corps, cette assimilation. Pour le corps tout entier. Ça, c'est sûr. Avec, justement, des aspects différents pour que le corps tout entier puisse vivre. C'est la respiration qui donne cette autonomie en premier lieu. Donc, assimilation. Quand je dis assimilation, je veux dire que quelque chose qui était antérieurement différent du vivant, devient le vivant. L'aliment, au terme, ne fait plus nombre avec le vivant. Et ça, je crois que c'est capital à bien saisir. C'est ça le propre du vivant. C'est ça qui, philosophiquement, caractérise le vivant.
c'est que le vivant est capable de faire que ce qui est extérieur à lui devienne lui. Le non-vivant ne peut pas faire ça. Les choses s'ajoutent de l'extérieur. Tandis que là, ça s'ajoute dans l'immanence. Vous voyez, et c'est là où je vois le caractère propre du vivant, qui est l'immanence. À l'intérieur de son opération. Une opération vitale est une opération vitale dans la mesure où elle est immanente. C'est important parce que c'est ça qui va permettre ensuite, nous allons voir, de revenir sur les degrés de vie. Mais il faut d'abord comprendre qu'une opération vitale se caractérise par l'immanence. L'immanence, ce qui était extérieur devient intérieur. Ce qui est extérieur devient mien. L'air que je respire devient ma vie. Devient ce qui est ma propre vie. Exactement la même chose pour l'aliment. Là, il y a des deux côtés la même chose. Mais la respiration a quelque chose de premier, de plus fondamental, parce que c'est cette assimilation la première. Génétiquement, première qui donne l'autonomie et la dernière qui reste. Celle aussi où le vivant, ayant son autonomie propre, va de fait réaliser quelque chose de plus parfait dans cette assimilation, où ça devient encore plus profondément lui-même. Comme la nutrition, comme l'aliment. Je crois qu'on peut dire que là, il y a les deux qui se tiennent. Alors, cette assimilation, si je peux l'expliquer, je veux dire, puisque c'est le vivant qui assimile, il y a donc nécessairement une puissance particulière déterminée à la respiration, déterminée à la nutrition, une puissance nécessaire, puissance vitale qui implique une cause efficiente. C'est là la cause efficiente. Hein? La cause efficiente de celui qui se meut. Le vivant de vie végétative se meut à travers la respiration et à travers la nutrition. Il se meut par rapport au milieu ambiant. Il se meut dans puissance vitale. Cette puissance efficiente est reliée à l'âme. À l'âme végétative. C'est une faculté qui provient de la végétative. C'est une faculté qui est au niveau de la vie végétative, implique donc un organe. La respiration implique un organe, hein, c'est bien. Et si l'organe ne marche plus, on ne peut plus respirer aussi bien. Et un organe qu'on peut développer, comme toujours, un organe physique. Donc il y a un organe physique qui est la cause matérielle de cette puissance vitale qui me permet de respirer. Quel est l'objet, la détermination spécifique de cette opération vitale? Est-ce que c'est l'aliment? J'ai dit l'oxygène, je respire l'oxygène. Hein? Et je me nourris d'une quantité de choses diverses. La respiration, vous voyez, est beaucoup plus spécifiée. Elle est beaucoup plus spécifique, elle est beaucoup plus déterminée, la respiration. C'est peut-être ça qui la caractérise. Elle a quelque chose de plus élémentaire, plus fondamental. Elle est première dans l'ordre génétique, parce qu'elle est plus fondamentale. Et alors, elle a quelque chose qui la détermine. Je ne peux pas respirer de multiples manières, hein. Et c'est la respiration qui est la chose la plus importante, la plus fondamentale. Si je respire plus, ça y est, je ne peux plus manger. Hein. Il y a quelque chose qui fait arrêter la vie. Alors, la respiration d'oxygène, est-ce que l'oxygène correspond à la spécification de la respiration? Ou est-ce que c'est un objet purement matériel? Je pose la question, là. C'est difficile. C'est très difficile à préciser. Parce que qui dit assimilation dit que quelque chose d'extérieur devient intime et intérieur. Donc, il faut que ce que je respire, l'oxygène, devienne moi, devienne le vivant. Oui. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que l'oxygène détermine la respiration. Mais ce n'est pas l'oxygène qui détermine la respiration. C'est lorsque j'ai assimilé l'oxygène, c'est ça qui le détermine. C'est le but, c'est le terme.
Le point de vue premier, l'oxygène, n'est que, j'allais dire, la matière nécessaire à la respiration. Et c'est ce qui caractérise justement ces facultés vitales, ces puissances vitales, c'est que la cause efficiente qui assimile va en même temps déterminer. Et cette cause efficiente, cette faculté, va déterminer et va impliquer une cause matérielle. La cause finale, elle est facile à comprendre, c'est tout simplement pour que le vivant continue de vivre. Donc c'est au service du vivant, c'est pour le vivant, c'est pour ça que je dis, c'est pour le corps vivant. La respiration est tout de suite liée à la nutrition. Alors c'est ce que je vous disais, la nutrition, c'est encore plus net. C'est que l'aliment, et c'est peut-être pour ça que la nutrition va éclairer la respiration, l'aliment est divers, donc l'aliment ne détermine absolument pas ce que représente la digestion ou la nutrition, absolument pas. Donc, la faculté vitale implique une cause efficiente déterminée qui assimile l'aliment de telle manière. L'assimilation ne se fait pas de la même manière pour l'homme et pour l'animal. Chimiquement, peut-être, à peu près la même chose, mais vitalement, non. Parce que je l'assimile au corps de l'homme, et le corps de l'homme n'est pas le corps du bois. Et donc, je peux dire que cette faculté nutritive, au point de départ, a un caractère distinct de cette âme végétative qui est l'âme du corps de l'homme, et qui permet à cet aliment d'être assimilé, transformé dans le corps de l'homme. Voyez comment là nous trouvons que la puissance vitale que nous posons au point de départ à partir de l'opération, hein, l'opération c'est pas l'aliment, l'opération c'est pas l'oxygène, c'est pas le milieu, c'est la nutrition, c'est l'assimilation. Et c'est au terme de l'assimilation, puisque l'assimilation est pour le terme de l'assimilation, que je peux déterminer, que je peux préciser la spécification de cette opération. Et la spécification de cette opération, c'est justement le fait que ce qui était au point de départ externe devient interne et devienne le vivant. Qu'il y a un organe physique, un organe végétatif nécessaire, que cet organe végétatif, s'il est malade, va arrêter, diminuer. Ma nutrition et ma respiration sont donc en dépendance de la santé de mon corps. La santé de mon corps va permettre une nutrition plus parfaite, une assimilation plus totale. Parce que si justement les organes sont fatigués, ou les organes sont usés ou sont malades, à ce moment-là, l'assimilation ne se fera plus. Alors la biologie saisit l'organe, mais pas la faculté, pas la dynamis. Vous noterez vos questions dans ce domaine important du premier moment, premier degré de la vie. On ne peut pas dire grand-chose au plan philosophique, hein, mais on peut préciser un ordre, c'est énorme. Et on peut préciser qu'il s'agit d'une assimilation vitale, tout entière tournée vers le vivant.